L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Il y a des conversations qui vous émeuvent, qui vous touchent plus que d'autres. Et c'est sans doute le cas de celle que j'ai eue aujourd'hui avec Annick de Souzenel. Annick, c'est une anthropologue spirituelle qui a écrit un peu plus d'une vingtaine de livres, dont Le féminin de l'être en 2000, mais aussi Le grand retournement. Elle s'est intéressée à toutes les religions, mais sans dogme, sans obligation. Et avec elle, on va parler du sacre du féminin, des religions, de liberté, de libre arbitre, mais aussi de courage. C'est une conversation pleine de spiritualité, mais extrêmement ancrée, qui moi m'a énormément touché, et j'espère qu'elle vous touchera aussi. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Annick.
Bonjour.
Grégory.
J'ai du mal à retenir.
C'est pas bien grave. Je suis ravi d'être là avec vous. Vous avez écrit récemment un livre qui s'appelle Le grand retournement. Je pense que en ce moment, les personnes qui nous écoutent savent que elles sont un peu perdues. On est dans une sorte de crispation. Donc il y a beaucoup de peur qui remonte. Pour vous, c'est l'expression de quoi ce grand retournement? Qu'est-ce qu'on est en train de traverser?
Vous savez, je n'ai pas inventé le mot. En vérité, je suis une amoureuse des textes bibliques, mais ma connaissance de l'hébreu m'a permis de découvrir une traduction bien souvent très infantile d'eux. Ou bien une traduction juste, mais insuffisante, et qui ne pouvait pas être comprise au temps où on lisait les textes autrefois. Alors qu'aujourd'hui, où les événements se précipitent, tout à coup ces textes-là se révèlent à nous. Il y a une sorte de levée de voile, si vous voulez, qui est quelque chose de tout à fait émouvant aujourd'hui, sur beaucoup de choses, et en particulier sur ces textes bibliques. Donc mon travail m'a permis de les traduire un petit peu autrement, et c'est là où j'ai vu que nous vivions à l'heure actuelle quelque chose que l'on peut appeler en effet un grand retournement. Vous savez, je suis une mère de famille, j'ai attendu un bébé, des bébés même, et je sais comme toute femme que pendant les 6 premiers mois de la grossesse, l'enfant se développe sur le plan anatomique et physiologique. À la fin du 6e mois, il est achevé. Et à partir du 7e mois, il y a un retournement dans le ventre de la mère et il vit 3 autres mois dont on ne sait pas très bien pourquoi. Et moi, j'avais l'intuition depuis longtemps que ces 3 derniers mois... Pendant ces 3 derniers mois, l'enfant recevait une information d'un ordre totalement différent concernant son être, un être beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil, qui lui permettait, au bout des 9 mois, de pouvoir venir au monde avec non seulement la possibilité de développer tout son être animal, mais aussi, un jour, de développer son être divin. Car je crois que les 3 derniers mois de gestation ont concerné pour l'enfant à recevoir une information d'ordre divin, de cet ordre qu'il est appelé à devenir lui-même. Et tout à coup, quand nous avons été pris, même avant le Covid, où j'ai vu ce qui se jouait dans le monde, j'ai vu l'humanité comme étant un grand fœtus dans le ventre cosmique, vivant des mois de gestation. Et dans la Bible, tout me dit que nous avons vécu le sixième mois de gestation au moment de la naissance du Christ. Marie a reçu la visite de l'ange au sixième mois de l'année. Elle est allée voir sa cousine Élisabeth, qui était enceinte de 6 mois. Enfin, si nous ne comprenons pas qu'il s'agit du 6, on ne comprend pas grand-chose. J'ai aussi, en m'appuyant sur d'autres textes, vu que ces mois de gestation correspondaient à 2100 ans de la vie historique, et nous sommes 2100 ans plus tard, et nous entrons dans le 7e mois de gestation. Et dans ce 7e mois de gestation, il y a un retournement total qui se joue dans le monde, et qui correspond à ce retournement du 7e mois de gestation dans le ventre d'une maman. Parce que nous allons commencer de vivre une information qui ne concerne plus notre anatomie physiologique. L'homme est devenu un homme, il est sorti de l'animal, ça y est, c'est fait, il est bon. Mais il reste un animal dans sa façon d'agir. Et aujourd'hui, c'est au contraire une information d'ordre divin qu'il reçoit et qui va faire de lui un homme totalement autre. Quand je dis homme et femme, bien sûr, totalement bien sûr. Autre. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que j'ajoute exprès le mot femme, parce qu'il y a aussi une redécouverte de la femme. Étant donné que la Bible, les traducteurs de la Bible ont totalement confondu la femme que je suis avec le féminin des profondeurs, qu'est l'inconscient. Quand il nous est dit d'épouser, dans le début de la Genèse, que l'homme a épousé son isha, ce n'est pas l'homme a épousé la femme, parce qu'il n'est pas encore d'ordre animal, ou il est sorti de l'ordre animal. C'est tout être humain qui est appelé à épouser son inconscient, à pénétrer son inconscient et à réaliser les énergies potentielles qui sont là et qui sont d'une richesse incroyable. Mais quand l'homme ne sait pas que ce féminin est là, qu'il ne sait pas qu'il a cette richesse potentielle, eh bien c'est la richesse potentielle en question qui agit à sa place. C'est-à-dire que c'est l'inconscient qui agit à sa place. Et aujourd'hui, la plupart des êtres humains vivent uniquement en fonction de leur inconscient. Alors, il y a un progrès qui a été fait depuis un siècle environ, un peu plus d'un siècle, où l'on a commencé de découvrir l'inconscient. Mais seulement un siècle, ce n'est pas très très long, où l'on travaille sur ce sujet. Mais dans la mesure où le monde divin a été identifié aux églises, on est resté dans quelque chose de moraliste et d'insupportable. Alors qu'aujourd'hui, où les églises s'effondrent heureusement un petit peu, et je dis heureusement, attention, je suis très respectueuse de l'église telle qu'elle devrait être, mais ce qu'en ont fait les hommes est tout à fait bien souvent navrant, et justement, en avoir fait un code moral est une catastrophe. Alors que l'Église aurait dû apprendre justement à cet Adam que nous sommes tous, aussi bien homme que femme, à épouser son féminin intérieur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Totalement clair.
Mais ça me semble d'une priorité extraordinaire. Alors ce qui est intéressant dans l'étude que j'ai faite à partir de la Bible, c'est que les patriarches qui symbolisent ces différents mois de gestation sont sans femme, comme si le monde de la femme était exclu. Et à partir du 7e mois, celui qui préside à ce 7e mois prend deux femmes. Et voilà que le féminin réapparaît. Et nous sommes aujourd'hui à l'heure où ce monde du féminin réapparaît. Mais il réapparaît malheureusement trop en réactionnel, en outrance, Et je ne suis pas du tout d'accord avec bien des choses qui se réclament du monde féminin. Mais si véritablement le monde féminin retrouve sa véritable place, alors je crois que nous allons vers des jours très très importants, très beaux, parce que le féminin est lié justement, tout ce monde féminin intérieur est lié à tout ce potentiel divin qui est en nous.
Et alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de réagir. D'abord, vous parlez des religions, de la Bible, mais quand on vous écoute par ailleurs, vous passez un peu des dogmes. C'est pas très dogmatique votre manière d'envisager la religion. Elle est pas dogmatique. Et en plus, vous vous êtes intéressé à la Bible, mais aussi à la religion juive, mais aussi au plat d'Égypte, etc. Vous êtes vraiment intéressé à toutes les religions. Je sais pas pour le Coran, mais j'imagine aussi que vous êtes intéressé au Coran également.
Aussi.
Et ce que j'aimerais comprendre avant qu'on aille sur le féminin, parce que évidemment ça m'intéresse et vous avez écrit un livre dessus. Ce que j'aimerais comprendre, c'est quels sont les messages sortis des dogmes des différentes religions. J'ai l'impression que ça se réunit. Finalement, le message, il est quasiment un. Et quel est ce message?
Le message essentiel,